Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Le comte Axel de Fersen.
Je ne puis être la seule personne à qui je voudrais être, la seule qui m'aime véritablement. Aussi je ne veux être à personne, Axel de Fersen.
Je ne sais pas si Fersen a eu les faveurs de la reine. Probablement pas. Ma femme est fidèle et croyante. Mais qu'il l'aime et qu'elle l'ait désiré en retour, cela m'a toujours déchiré le cœur. Si seulement elle pouvait me regarder comme elle regarde Fersen.
Ah, que n'a-t-on écrit sur les relations de Marie-Antoinette, Louis XVI et Fersen ? L'amour plaît davantage que le mariage pour la raison que les romans sont plus amusants que l'histoire. C'est une maxime d'un contemporain, Chamfort. Les lettres échangées par la reine et le comte suédois sont nombreuses. Une historienne anglaise, Evelyn Farr, publie cette correspondance. Elle a tenté de déchiffrer à l'œil nu les passages que la famille de Fersen, avant la première édition de 1877, avait soigneusement caviardés. Les archives nationales, elles, ont acquis quelques-unes de ces fameuses lettres, et elles sont en train de dévoiler le début de l'aboutissement d'une recherche expérimentale confiée à un laboratoire du CNRS. Il s'agit de faire ressortir le cuivre de l'encre qui a servi pour écrire et que l'on ne trouve pas dans l'encre qui a servi au caviardage. Le résultat est déjà claironné à son trompe. Un des derniers secrets de la monarchie vient de céder aux assauts de la science. Il faut organiser aussi le tapage parce que les archives nationales ont besoin pour poursuivre l'affaire de mécénat. Fersen attirant les dons, cela devrait se faire. Quand les contre-révolutionnaires voulaient porter le roi Louis XVI sur les autels, le personnage de Fersen pouvait être gênant. Maintenant que Marie-Antoinette, dépolitisée, plus polisée, remporte de plus en plus de succès, tout dans le beau conte est bon à prendre, y compris sa mort incroyable, le jour anniversaire de la fuite de Varennes, qu'on vous racontera bien sûr en détail.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Emmanuel de Varesquiel, bonjour.
Bonjour Jean.
Vous êtes en train de mettre la dernière main à un livre qui paraîtra en principe à la rentrée sur octobre 93, c'est-à-dire ces journées où l'opinion est déchirée en France. Qu'est-ce faut-il penser de Marie-Antoinette, de ses trahisons éventuelles et où tout dans les traditions françaises est un peu cul par-dessus tête.
Oui, il s'agit de son procès en fait, qui dure 2 jours et demi. Qui commence le 14 octobre 93 à 9h du matin et s'achève le 16 octobre à 6h du matin, quasiment non-stop. Et l'idée, c'est de montrer la coexistence de deux mondes, qui sont le monde de l'Ancien Régime et le monde de la Révolution, qui se parlent, qui se voient, qui se touchent, mais qui se haïssent, et qui sont comme séparés par une sorte de paroi de verre. C'est dans un certain sens, à l'acné de la terreur, une forme d'impasse de la Révolution à travers ces rapports entre Révolution et contre-Révolution. Donc, c'est une construction de portrait un peu psychologique, on peut dire, à la fois de Marie-Antoinette, l'accusée, mais aussi de ses juges, de l'accusateur public, Fouquier-Tinville, et des jurés qui sont les anonymes de cette histoire, un peu comme des personnages en quête d'auteur à la Pirandello.
Dans voilà. Le dernier acte apparaîtra le comte de Fersen, qui est séparé de la reine depuis pas mal de temps maintenant et qui vit à l'étranger quand elle mourra. Est-ce qu'on peut commencer quand même en racontant un peu de la vie d'Axel de Fersen, avant qu'il ne connaisse la reine, avant qu'il ne prenne les couleurs de la contre-révolution? C'était un jeune homme qui aurait pu ne pas être contre-révolutionnaire.
Pour commencer.
Voilà. Donc il n'y a pas eu de révolution encore.
Il habite un monde normal, qui est celui de la monarchie suédoise. Il est issu d'une famille de cour. Son père est grand maréchal de cour de Gustave III, qui est le roi de Suède de l'époque, qui est un roi plutôt réactionnaire, pas spécialement éclairé. Et il est envoyé, comme tout jeune rejeton de l'aristocratie européenne, quelle qu'elle soit, il est envoyé pour ce qu'on appelait le grand tour, c'est-à-dire il est destiné à l'armée, mais avant d'entrer dans la carrière militaire, on l'envoie faire le tour de l'Europe pour son instruction. Et
il va même rencontrer Voltaire, ça fait partie des étapes obligées.
Il va aller en Italie et évidemment il passe à Paris, à la cour de France, et il voit Marie-Antoinette pour la première fois. Il lui est présenté, très officiellement, par l'ambassadeur de Suède, du roi de Suède à Paris, en novembre 1773.
Ils ont 18 ans, l'un et l'autre.
Ils ont 18 ans, oui. Elle est encore dauphine, elle n'est pas encore reine. Il entre très rapidement dans le cercle dit des petits cabinets de la reine. Il revoit la reine à l'opéra. Il y a une scène qui est restée célèbre du côté des biographes de la dauphine masquée à l'opéra qui parle longuement à Fersen, qui le regarde probablement, certainement plus que les autres. Et par discrétion, probablement par pudeur, Fersen, qui est de confession protestante, dont certains courtisans de Versailles disaient qu'il avait tout d'un personnage de roman, mais certainement pas d'un roman français, ce qui veut dire que cet homme est discret, réservé, assez froid, très beau.
Même pas libertin, discret et même pas libertin.
Absolument pas libertin, extrêmement loyal et droit, un homme d'honneur selon les traditions de l'Ancien Régime, un homme de fidélité. Et par discrétion, il prend la décision de suivre le corps expéditionnaire français en Amérique qui va combattre pour l'indépendance de ce qu'on appelait les insurgents américains. Et Fersen a été l'aide de camp de Rochambeau. Et il a été présent à l'une des batailles les plus importantes de cette guerre d'indépendance, qui est le siège de Yorktown.
Le 12 juin 1781, c'est le vrai début de la longue marche. Dans la journée, il fait une chaleur caniculaire. C'est pourquoi on bat le départ à 2 heures du matin. Chaque étape n'est que de 35 km en moyenne. Mais l'état des chemins est tel qu'on arrive en général qu'au début de l'après-midi. Comme on traverse une région de forêt presque sans culture, les soldats sont obligés de porter leurs provisions sur leur dos. L'intendance suit mal, car ce sont des bœufs qui tirent les chariots contenant le remède miracle contre la soif et la pollution de l'eau, les tonneaux de rhum des distilleries de Newport et de Providence. C'est en effet avec du rhum qu'on purifie l'eau tirée des puits où les Anglais ont coutume de jeter les cadavres de leurs ennemis.
L'abbé Robin, attaché au régiment du Soissonnais, témoigne de la vaillance de toute l'armée.
Mon jeune chef, élevé dans l'aisance et la mollesse, supporte ses fatigues avec un courage qui me fait rougir de ma faiblesse.
C'était Jean Topard et, à l'instant, François Mestre dans un documentaire de Daniel Lecomte. Au retour de cette campagne expéditionnaire aux États-Unis, Emmanuel de Varesquen, Axel rentre toujours beau, toujours loyal, toujours fidèle et endurant aussi. L'homme de discipline,
oui, c'est pas un homme qui
est gâté par le luxe.
Qui a vécu une vie militaire, elle a dû, c'est très bien dit d'ailleurs dans le son que vous avez passé. Et à son retour se passe ce que Stendhal appelle la cristallisation, c'est-à-dire une rencontre dont Fersen se souviendra plus tard, il se souviendra de la date, qui est le 15 juillet 1783, où probablement l'un et l'autre se sont déclarés et se sont avoués leur passion réciproque. On n'en saura jamais plus. On ne saura pas ce qui s'est passé. Au fond, la question de savoir s'ils ont couché ensemble, pour être un peu trivial, importe peu. Ce qui importe, c'est ce qu'a représenté un homme comme Fersen pour une reine de France et ce que ça indique du point de vue de leur caractère réciproque, de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils ont été l'un par rapport à l'autre.
Mais ils sont aussi dans une distance, même s'il y a des moments de rapprochement.
Bien sûr.
Et dans le suppose que Fersen a eu un appartement en face de l'appartement de la reine à Versailles à l'hôtel de Luynes, mais il commande un régiment qui s'appelle le Royal Suédois, lequel stationne dans le nord.
Il est au service de la France, comme officier suédois, au service de la France, à la tête d'un régiment que Marie-Antoinette lui a en partie obtenu en 1783, qui est stationné, comme vous le dites, à Valenciennes, et il fait très fréquemment des allers-retours entre la cour et son régiment. Il est, encore une fois, dans le cercle des intimes, au Petit Trianon, dans les cabinets de la reine à Versailles, et il commence une correspondance, et on parlera certainement de ses lettres, avec la reine, qui évidemment est plus abondante lorsque Fersen est absent, lorsqu'il est à Valenciennes, et qui durera jusqu'en 1792.
C'est aussi à partir de ce moment, 1787 notamment, que la reine gagne en influence politique au prix d'une exposition de plus en plus grande. Quand elle est en difficulté au début de l'automne 1789, le 23 septembre, Fersen rentre de Valenciennes, s'installe à Versailles et il sera auprès de Marie-Antoinette le 5 octobre quand la foule venue de Paris va forcer ses appartements.
Madame, c'est Monsieur Breteuil qui m'envoie.
Que veut-il ?
Ce sont les femmes de Paris. Elles marchent sur Versailles.
Mon Dieu, mais pourquoi ?
Elles réclament du pain. Le roi est à la chasse, on a envoyé à sa recherche. Le ministre vous attend au palais avec le comte Fersen.
J'ai envoyé des courriers à la recherche du roi. Il chasse vers Meudon, je crois. Si sa majesté ne revient pas à temps, nous pouvons tout craindre. Ces femmes sont plusieurs milliers, elles ont des armes et même des canons.
Je croyais la paix revenue enfin.
Paris, ces jours-ci, n'avait rien de paisible, je vous assure. Les agitateurs saisissent tous les prétextes pour rassembler la populace et leur tenir des discours extravagants.
Et la garde nationale les a donc laissés faire.
La garde nationale est avec elles.
C'est affreux. Le comte d'Artois s'est enfui en Allemagne. Le prince de Condé, les ducs de Bourbon, d'Enghien. Le comte de Vaudreuil et l'abbé de Vermont eux-mêmes m'ont abandonné. Et ceux qui restent sont tout prêts à trahir.
Dès le premier jour, certains d'entre nous ont choisi de vous rester fidèles.
Je le sais, mon ami. Je vous ai rencontré du temps où j'étais heureuse. Mais c'est toujours du malheur que je vous retrouve.
Et après ces journées d'octobre, les souverains qui ont été ramenés de force à Paris sont effectivement prisonniers, comme Richard Cœur de Lion. C'est l'air de Grétry qui est devenu comme un hymne de la contre-révolution.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Emmanuel de Varesquiel qui prépare un livre qui sortira à la rentrée sur Marie-Antoinette et ses dernières journées.
Sur son procès.
Et nous avons aussi maintenant en main la version Evelyne Farr de la correspondance de Marie-Antoinette et du comte Axel de Fersen qui est le personnage auquel est dédiée cette émission. On parlait tout à l'heure du rôle grandissant de la reine à partir de 1787 et a fortiori après que s'est déclenchée la Révolution.
Oui, au fond, elle ne choisit pas le pouvoir. Elle n'aime pas le pouvoir. Au fond, toute la vie de Marie-Antoinette a été une sorte de ligne de fuite. Elle s'est fuie elle-même, probablement par des amours d'elle-même. Il faut tout de même la situer par rapport à de très très grands chocs psychologiques qu'elle reçoit. D'abord celui de 1770, où son univers s'effondre une première fois. La scène métaphorique de ça, c'est la scène de Strasbourg, où on lui demande de se déshabiller, d'abandonner ses habits de petite archiduchesse d'Autriche, et de devenir la dauphine de France. Ça, c'est déjà un premier effondrement, et tout ce qui s'ensuit est une conséquence de ça, probablement. Et puis il y a un deuxième effondrement, c'est celui de la monarchie. monarchie elle-même à partir de 1788-1789. Et là, au lieu de fuir comme elle l'a fait la première fois, elle va affronter son destin, même si c'est le destin des vaincus. Et les silences du roi, l'inertie du roi, certains historiens diront la dépression du roi et la révolution vont faire qu'elle va s'affronter elle-même pour la première fois en affrontant un pouvoir qu'elle n'aime pas.
Et Fersen la et soutient devenir... en disant que le parti du roi est composé de gens incapables et qu'il faut des personnalités comme la sienne pour l'appuyer.
Oui, et au fond devenir une sorte de passionnariat du droit divin et de la monarchie, de l'absolutisme monarchique. Elle est la première, à partir de 1789, à défendre les droits de Louis XVI et surtout les droits de son fils, le petit dauphin, qui a 4 ans en 1789. Et ceci a, je dirais, des conséquences. Certaines sont assez touchantes, c'est ce côté chevaleresque de la reine, côté chevaleresque que l'on voit aussi dans ses rapports avec Fersen, mais a aussi une conséquence, je dirais, que l'on peut juger assez sévèrement, mais aussi sévèrement possible dans la mesure où la reine n'est pas la seule à ne pas avoir compris ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire ce renversement brutal de souveraineté de la personne du roi à la nation en quelques jours, à travers le serment du jeu de paume du 20 juin 1789.
Le comte de Fersen, lui, via son autre maître, Gustave, roi de Suède, tente d'agiter les cours pour renforcer le parti international absolutiste. D'ailleurs, Gustave, au moment de la fuite de Varennes, dont Fersen est peut-être le principal organisateur, compte se tenir à Aix-la-Chapelle pour attendre la famille royale, mais on sait que le sort se jouera des projets du comte et que la famille royale reviendra à Paris.
Captive.
Deux fois captive. C'est là que les lettres prennent un intérêt particulier. Il faut les coder, il faut les surveiller, il faut les faire parvenir.
Marie-Antoinette, dans un certain sens, aux Tuileries, dès le mois d'octobre 1789, aux Tuileries où elle est assignée à résidence avec la famille royale, entre en résistance. Et lorsqu'on entre en résistance, on entre dans une forme de secret. Et elle a eu des réseaux extrêmement puissants, ces réseaux d'agents, de correspondants, sont des réseaux secrets. Elle agit en secret et elle correspond en secret. D'où ce principe de code. Ce principe de codage des lettres et de décodage des lettres était un principe qu'elle connaissait, car elle écrivait déjà à Fersen en lettres codées dès l'année 1787. Et ce principe de codage est intéressant parce qu'il suppose l'existence de la part de celui qui écrit la lettre et de celui qui va la recevoir d'une édition identique d'un même auteur. On dit que Marie-Antoinette et Fersen se servaient d'une édition de Paul et Virginie, ce qui ajoute un aspect assez romanesque à toute cette histoire. Et l'idée, c'est d'indiquer une correspondance d'un numéro de page avec un mot-clé, qui est le premier mot de la page indiquée, qui est mise en vis-à-vis d'un code secret. C'est un code polyalphabétique qui est composé donc de lettres. Et ensuite, on déchiffre et on chiffre à partir d'une table de correspondance entre les lettres du mot-clé et les lettres du code. Non seulement Marie-Antoinette écrivait ainsi à Fersen, mais à nombre de ses correspondants à Bruxelles, à Vienne, à Madrid et dans toutes les cours européennes.
Et dans cette gamme, il pouvait y avoir Barnave, député girondin qui l'avait accompagné au nom de l'Assemblée nationale au moment du retour à Paris, ou bien le comte de Lamette qu'elle avait reçu clandestinement toujours, aux Tuileries, peu avant la dernière, l'ultime visite de Fersen, février 1792.
Cher comte Théodore de Lamette, n'avez-vous pas été suivi ?
J'ai, madame, revêtu un manteau couleur de muraille et pris un escalier dérobé pour présenter mes hommages à votre majesté.
Messieurs Duport et Barnave me conseille.
Et vous prêche, madame, la modération.
Il est vrai. J'affecte d'écouter ces gens-là, mais je ne puis leur accorder ma confiance.
Axel !
Madame.
Enfin ! On ne vous a pas remarqué ?
Ainsi déguisé, non, madame. Je suis passé par mon chemin ordinaire comme autrefois.
Non. Ne me regardez pas. Je sais
Mes cheveux sont devenus tout blancs. L'an dernier, pendant l'atroce retour de Varennes. Et nous voici à nouveau prisonniers de la Révolution. Nous sommes gardés nuit et jour.
C'est affreux.
Ce qui est le plus affreux pour moi, c'est de ne pas savoir où vous êtes. C'est un vrai supplice de ne pas avoir de vos nouvelles. Vous avez reçu l'anneau que je vous ai envoyé?
Oui, mon ami.
Il est à votre mesure, n'est-ce pas?
Oui. Mais sur l'averse sont gravées 3 fleurs de lys et je n'ai pas osé le porter ici.
Vous avez bien fait.
Alors vous avez reconnu, Emmanuel de Varesquel, la tonalité des vieilles dramatiques radio. Ici, c'est signé André Castelot. Il paraît que vous avez fait vos débuts comme ça dans une dramatique de ce genre.
Oui, je crois que ça a été ma première émission de radio.
Vous aviez l'âge de Fersen quand il a rencontré Marie-Antoinette.
Non, pas sur Fersen, je crois que c'était sur le Duc de Richelieu, avec Decaux et Castelot. Ouais.
Alors revenons à Fersen. Où en est la trahison, là? Qui trahit? Parce que pour les révolutionnaires qui vont faire un procès à Marie-Antoinette que vous restituez dans un livre prochain, il y a trahison. Mais
Oui, Talleyrand disait très finement à Vienne en octobre 1814, en parlant à Alexandre Ier qui reprochait au roi de Saxe d'avoir trahi l'Europe, il lui disait « Sire, la trahison est une question de date ». On peut l'admettre, mais on peut aussi dire que la trahison est une question de monde, d'univers intellectuel, culturel et politique. Et au fond, on a face à face deux mondes qui s'accusent l'un l'autre de trahir. Le monde de Marie-Antoinette, au fond, c'est le monde de la monarchie qui est bousculé par la Révolution. C'est le monde du renversement des alliances et de l'alliance franco-autrichienne de 1756. Et la politique qu'elle va conduire vis-à-vis des alliés, des cours alliés sous la Révolution, est en continuité ou la continuation de cette alliance conclue par le duc de Choiseul à l'époque de Louis XV en 1756. Du point de vue de Marie-Antoinette, bien sûr, il n'y a pas trahison. D'autant plus que Marie-Antoinette, pendant très longtemps, pensera que, bien sûr, l'intervention des armées émigrées, que l'intervention des armées étrangères sur le territoire national serait une faute politique grave. Elle ne va appeler les armées étrangères que lorsque la monarchie entre en guerre avec le roi de Hongrie en avril 1792, et par défaut, parce qu'elle sent que la vie même de la famille royale est en danger aux Tuileries à partir de mai-juin 1792.
Je vous fais faire un changement de registre, si vous le voulez bien, Emmanuel de Varesquel. On a entendu dans la dramatique mention de l'anneau que la reine confie.
Il y a un anneau entre eux, mais qui est beaucoup plus romantique que ça. C'est une intaille que Fersen donne à la reine, qui sont ses armes, qui représentent un poisson volant, et avec une devise en italien, « Tout me conduit vers toi ».
Il va accumuler, acheter tout ce qu'il peut trouver sur le marché qui concerne la reine morte, parce que c'est particulièrement vivant, l'amour pour une personne morte. Mais il va faire tout cela depuis la Suède, qu'il regagne, et où il se trouve mêlé à la période qui suit l'assassinat de son maître, Gustave III. La même année, 1792, tragique pour lui.
Mars 92.
Le roi est assassiné en même temps que la famille royale française
est emprisonnée. À ce moment-là, il représente le roi Gustave III à Bruxelles et il sert de plaque tournante aux tentatives d'intervention entre la Suède, la Russie et Vienne.
On va pas essayer de raconter l'histoire complexe de la dynastie suédoise après cet assassinat, ni non plus toutes les crises de succession qui ne trouveront de résolution miraculeusement qu'avec le maréchal Bernadotte. Mais en 1810, grand maréchal de la cour, vieilli, bien qu'encore beau, Fersen est accusé d'avoir empoisonné le prince régent héritier. Et quand, le 20 juin, anniversaire de Varennes, 1810, il apparaît à Stockholm, à la tête du convoi funèbre du dit prince, voilà qu'une fermentation extraordinaire emplit la ville et la foule va dételer son carrosse à 6 chevaux de gala aux vitres de cristal, briser les vitres. Fersen est assailli de toutes parts.
La foule l'avait entouré en injuriant. On criait « Meurs, chien, meurs, maudit !» Et Fersen suppliait.
« Au nom du Christ, sauvez-moi !»
Fersen fut frappé, surtout de coups de parapluie, car la bande sauvage et meurtrière se composait en grande partie de cette espèce de classe moyenne qui, plus que le peuple, envie des grands et si volontiers des croix criminelles. On lui arrachait au passage des touffes de cheveux et ses boucles d'oreilles. Il trébuchait sous les bourrades. Lui qui avait tant aimé les uniformes, il était maintenant sans chaussures et en simple gilet. Mais il avait encore suspendu à son cou le ruban de commandeur de l'ordre des Séraphins, le plus prestigieux de tous, que seulement 24 hommes portaient. On le lui arracha, et là il fut piétiné à mort par une foule sauvage.
C'est un titre supplémentaire pour entrer dans le martyrologe contre-révolutionnaire que de mourir dans ces conditions, massacré par une foule cannibale. Et comme disent les grands théoriciens contre-révolutionnaires, Joseph de Maistre, par exemple, quand il y a un sacrifice à ce point sanglant, ça ne peut avoir qu'un sens.
Ah ça, il y a beaucoup de sacrifices dans cette histoire, oui, on peut le dire. Entre celui de la reine et celui de Fersen, si on part d'un principe qui est un principe sacrificiel, bien sûr.
Dites-moi, changeons de registre, si vous le voulez bien, Emmanuel de Varesquiel. Qu'en est-il, si on peut faire le point,
oui,
de la correspondance, et les caviardages qui concernent cette correspondance ne sont-ils pas le fait des héritiers?
Alors pour commencer, il reste une toute petite partie de ce qui devait représenter plusieurs centaines de lettres depuis 1783 jusqu'en 1792. Fersen lui-même en a fait disparaître. Il a perdu malheureusement une partie de son journal jusqu'en 91. Les héritiers ont publié le journal pour 1791 et 92 et 93 et la suite. Mais il a, en quittant Paris sous la Révolution, il confie son journal à un ami qui, par peur, le détruit. Et donc, ce sont ces épaves de lettres qui vont être achetées par un arrière-arrière-petit-neveu et qui vont être publiées en 1777. Évidemment, dans un état d'esprit qui est un état d'esprit de pudeur absolue quant aux rapports passionnels qui ont pu exister entre Fersen et la reine. D'où les caviardages sur des lettres qui, par ailleurs, sont des transcriptions de lettres codées. Alors, il y a déjà des distorsions sur le décodage lui-même, ça c'est une première chose, et ensuite, des caviardages à coups de rature, des passages, je dirais, les plus brûlants ou qu'il fallait cacher à la fin du XIXe siècle. Et un certain nombre de chercheurs a travaillé sur le différentiel, je dirais, de nature d'encre entre l'encre utilisée par Fersen et l'encre des ratures du caviardage. Et grâce à cela, je crois qu'ils ont réussi à mettre à jour trois lettres. Et on voit bien que les passages qui sont mis à jour sont des passages qui montrent la grande passion qui existait entre Marie-Antoinette et Fersen. Hein, « Je vous aime et vous aimerez toute ma vie à la folie », etc., etc.
Mais pour finir, le plus vraisemblable, c'était que c'était une de ces amitiés passionnées dont parlait Champfort, que nous citions au début. On y goûtait à la fois l'exaltation de la passion, mais les ressources de la raison, tout à la fois.
Oui, probablement pour Marie-Antoinette, Fersen a été une sorte de le dernier chevalier servant de la monarchie, un homme d'honneur sur lequel on pouvait absolument compter, et qui en effet s'est voué à vouer sa vie à sauver la famille royale. Il a joué un rôle de premier plan au moment de ce qu'on a appelé la fuite à Varennes. Il conduit lui-même la famille royale jusqu'aux portes de Paris, jusqu'à la sortie de Paris, avant que celle-ci ne prenne le chemin de Montmédy pour se faire arrêter à Varennes le 21 juin 1791. Il joue un rôle politique et pas seulement sentimental de très très grande importance dans la vie de Marie-Antoinette.
On attend Emmanuel de Varesquiel pour la rentrée prochaine, votre volume sur les journées décisives pour l'opinion française, en tout cas, et pour le sort de la reine d'octobre 1793. L'émission a été préparée par Ininka Negulesco, Frédéric Martin, Clara Garzone, à la technique Loïc Frapsos, et la réalisation, c'était Jacques Sigal.